Et c'est reparti pour les midis, deuxième partie. À 13h, comme promis, on discutera avec la comédienne et metteuse en scène Valérie Le Sor. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Alors il n'y a pas que le Festival de Cannes dans l'actualité culturelle cette semaine, il y a aussi le concours de l'Eurovision. La finale c'est samedi, mais depuis une semaine, les journalistes et les fans sont déjà à Bâle, la ville haute cette année, pour suivre les demi-finales. La France a choisi la chanteuse Louane pour la représenter avec un titre très autobiographique. On a entendu quelques mesures qui s'appellent « Maman ». Fabien Randan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le journal 20 minutes et vous couvrez l'Eurovision depuis plus de 10 ans. Vous venez d'ailleurs de sortir un livre, Queerovision chez Double Ponctuation, dans lequel vous revenez sur l'histoire du concours sous le prisme des droits LGBTQIA+. Alors vous êtes à Bâle, là, merci d'accepter cette interview. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler, parce que l'Eurovision et la Suisse, c'est quand même une longue histoire, c'était le premier concours en Suisse.
La Suisse est même le berceau de l'Eurovision. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une chanson dans la partie Interval Act de la première demi-finale, où effectivement il était rappelé que le concours a eu lieu pour la première fois en Suisse, à Lugano, et a été inventé, proposé par un Suisse, Marcel Besançon. Donc ça, effectivement, c'était dans les années 50, première édition en 56, c'est à l'époque l'UER, Union Européenne de Radio-Télévision, se disait, mais comment est-ce qu'on va faire pour utiliser ce procédé technique qu'est l'Eurovision, qui permet d'échanger des images, de faire des directs d'un pays à l'autre, etc. Que pourrait-on imaginer pour fédérer toutes les chaînes de télévision participantes autour d'un autre projet que des simples échanges d'images d'actualité? Eh bien, il y a eu différentes propositions, par exemple un concours de cirque, mais c'est le concours de chansons qui l'a emporté.
Et puisqu'on parle de la Suisse, on est aussi obligé d'évoquer, bien sûr, la prestation de Céline Dion. On ne savait pas qui était cette jeune chanteuse, et c'est quand même grâce à l'Eurovision qu'elle est devenue la star qu'elle est aujourd'hui.
Céline Dion a remporté l'Eurovision en 1988 avec la chanson « Ne partez pas sans moi ». Et c'est vrai que là, ces derniers jours, la rumeur enfle. Est-ce qu'elle sera là pour la finale? Est-ce qu'elle va faire une apparition? Alors, pour le moment, la question reste entière. Ce qui est sûr, c'est que donc durant la première demi-finale ce mardi soir, elle est apparue dans un message vidéo enregistré il y a plusieurs mois, sans doute même en fin d'année dernière. Et dans lequel elle rappelle que ce concours a changé sa vie. Elle a remercié d'ailleurs la population suisse, la Suisse, de lui avoir fait confiance.
Oui, parce qu'elle représentait la Suisse.
Elle représentait la Suisse, tout à fait. Et c'est vrai qu'elle est l'une des artistes qui illustre à merveille à quel point l'Eurovision peut être un tremplin. On a par exemple en tête l'exemple d'ABBA, plus récemment celui du groupe italien Maneskin, qui a ensuite fait une carrière internationale à partir de sa victoire en 2021. Et il y a effectivement eu Céline Dion, qui aurait sans doute fait carrière sans l'Eurovision, tellement sa voix est quand même magistrale. Mais quand même, on peut dire que ça lui a peut-être fait gagner certaines années.
Alors, vous venez d'assister aux demi-finales. Comment est l'ambiance? Comment ça s'est passé? Et est-ce qu'il y a des favoris évidents qui se dégagent selon vous?
Alors, la première demi-finale s'est déroulée hier. Elle s'est très bien passée. Il y a eu une surprise, l'élimination de la Belgique que beaucoup voyaient qualifiée, peut-être même top 10 en finale. Le candidat belge, Red Sebastian, avec une chanson très techno, était cinquième favori des bookmakers. Donc, on voit que les professionnels des paris ne font pas tout. Ils n'ont pas la science infuse. Parmi les autres favoris, mais qui, eux, se sont qualifiés, il y a le groupe finlandais Kai, qui représente la Suède, avec une chanson évoquant l'art du sauna finlandais. Donc, c'est un morceau très rythmé, très fédérateur. Puis, dès ce mercredi, arrivent les autres demi-finalistes, parmi lesquels l'Autrichien JJ, qui a une chanson pop opératique avec un petit peu d'électro. Beaucoup estiment que ça ressemble beaucoup à la chanson gagnante de l'année dernière. Bon, moi, je ne suis pas forcément de cet avis. Il va proposer 3 minutes avec une mise en scène où il va être sur un bateau rompu par la tempête et tout cela en noir et blanc. Donc il va falloir voir si ça va vraiment plaire au public, par exemple. Ça peut être un choix clivant. Et parmi les favoris, il y a aussi Louane qui est qualifiée automatiquement pour la finale, puisque la France, comme l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne, en tant que principaux contributeurs financiers du concours, sont qualifiés d'office pour la finale. Louane fait sa première répétition aujourd'hui et elle est troisième favorite selon les bookmakers. Là encore, il y a une chanson très émotionnelle, Maman, où elle parle de son histoire personnelle, de sa maman décédée et du fait qu'elle est elle-même devenue mère. Et cela est porté par une scénographie qui évoque le temps qui passe avec le motif du sablier. Louane va chanter donc avec du sable, qui en réalité du faux sable, hein, c'est du liège, qui tombe derrière elle, à tel du sable qui s'écoule d'un sablier. Donc on va attendre de voir si... une fois la mise en scène et 3 minutes révélées, puisque pour l'instant tout a été répété à huis clos, eh bien, de voir si ses chances de l'emporter sont réelles ou non.
Alors on le répète hein, chaque année, mais l'Eurovision c'est aussi le lieu où la géopolitique contemporaine se fait entendre. Est-ce que vous avez commencé à sentir des tensions entre les pays qui subissent des guerres ou en tout cas des pressions de la part de leurs voisins à 3 jours de la finale? Est-ce que cette ambiance géopolitique se fait sentir à Bâle?
Eh bien autant l'édition 2024 avait été un concours très tendu où on ressentait vraiment les tensions entre les délégations. Il y avait eu des artistes, notamment celles et ceux représentant l'Irlande, la Grèce, la Suisse, la Belgique, qui avaient signé des lettres ouvertes pour un cessez-le-feu et la délégation israélienne ne se sentait pas forcément à l'aise. Il y a des délégations qui se disaient être dans le viseur de la délégation israélienne, donc il y avait vraiment des tensions en coulisses. Cette année, les choses sont un peu différentes. On sent une vraie bonne ambiance entre les candidats qui ont tendance à beaucoup se mettre en scène sur les réseaux sociaux, les uns avec les autres, à faire des directs sur Instagram. Il y a un peu une impression de colonie de vacances. Mais il n'en demeure pas moins que la géopolitique reste présente et on a pu le voir notamment lors de la cérémonie d'ouverture dimanche. Donc les délégations sortaient de la mairie de Bâle pour ensuite emprunter un tram qui les menait vers l'Eurovision Village où les médias les attendaient. Donc c'était un parcours de un peu plus de 1 km. Il y avait la foule qui applaudissait donc les artistes sur le chemin. Et il y a eu des manifestants pro-palestiniens qui se sont mobilisés en brandissant donc des drapeaux, ce qui a fait que quand la délégation israélienne a vu ça, elle a dit « bon, on répondra pas aux questions des journalistes ». Effectivement, plusieurs personnes du public étaient mobilisées aussi, notamment pour dénoncer la participation d'Israël à l'Eurovision et l'utilisation par ce pays du concours comme une arme, un outil de soft power, voilà, pour se donner une certaine image peut-être raconter autre chose que ce qui est en train de se passer en ce moment. En tout cas, effectivement, Israël est représenté par Yuval Raphaël, qui est donc une jeune artiste et qui est une survivante de l'attaque du 7 octobre 2023. Elle était au festival et elle a survécu en se cachant sous des corps, sous des cadavres donc de personnes tuées par les assaillants.
Eh bien, merci beaucoup Fabien Randan de nous avoir donné toutes ces nouvelles et puis donc on suivra l'Eurovision. C'est samedi hein, la finale.
La finale, c'est samedi effectivement à 21h.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, les daguerréotypes ont enfin leur place sur le marché de l'art.
Oui, ce sont des images figées sur une plaque de cuivre recouverte d'une pellicule d'argent. Premier procédé photographique commercialisé, le daguerréotype a été inventé dans les années 1830 par le français Louis Daguerre. Et le mois dernier, 89 daguerréotypes ont été vendus aux enchères, presque 50 000 euros pour une vue de l'Acropole, qui compte parmi les premiers instantanés connus des vestiges grecs. Du 12 au 16 juin prochain, une collection de 200 plaques vont être mises en vente par Christophe, parmi lesquelles une vue de Florence réalisée par John Ruskin.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.